Les 8h05, bienvenue à celles et ceux qui se réveillent dans les promesses de l'aube, toujours sur Radio Panique sur le 105.4 FM et également sur internet sur radiopanique.org. C'est déjà plus de 8h et donc c'est le moment de notre invité et on reçoit ce matin Fabien dans nos studios. Bonjour.
Bonjour.
Alors Fabien, est-ce que tu peux te présenter déjà par toi-même, ce sera mieux.
Voilà donc Fabien, je suis coordinateur du service alphatique à Lire et Écrire Bruxelles. Alors Lire et Écrire Bruxelles en deux mots, donc c'est une association d'alphabétisation. Donc on s'occupe de personnes qui n'ont pas été à l'école ou très peu, et qui dans tous les cas n'ont pas acquis les compétences de base, les savoirs fondamentaux. Et à Lire et Écrire Bruxelles, on organise des formations bien sûr. Mais on a aussi un rôle de soutien de tout le réseau d'alphabétisation sur Bruxelles. Et donc il y a 100-150 associations d'alphabétisation sur Bruxelles. Et donc nous on va accueillir les personnes et les orienter vers une formation qui correspond à leurs besoins, à leurs attentes. On va aussi renforcer le réseau en proposant des formations pour les travailleurs salariés ou bénévoles qui travaillent dans l'alphabétisation. On a un service d'accompagnement à la recherche d'emploi pour les personnes analphabètes. Donc on a toute une série d'activités et le service alphatique, on va s'occuper du renforcement des compétences numériques des personnes en situation d'analphabétisme.
Et c'est bien de ça dont nous allons parler dans cette émission ce matin, du numérique, puisque là une campagne a été lancée par plusieurs associations. Dont Lire et Écrire, mais il y en a bien d'autres en fait. D'ailleurs, vous êtes combien en tout?
Bon, là, on a plus de 200 associations qui sont avec nous sur cette mobilisation contre le tout numérique. Donc c'est assez large comme mobilisation. C'est tout le secteur social bruxellois qui est avec nous.
Alors comment c'est lancé d'abord en fait cette unification entre ces associations. Alors quand on parle en fait de numérique, on parle ce matin surtout de fracture numérique et de comment tout devient de plus en plus via des interfaces numériques et comment on a de moins en moins d'humains derrière et à quel point il est difficile pour des tas de personnes de pouvoir avoir accès à l'information, à leurs droits, à des choses tellement simples de base, en fait, puisqu'on allait à un guichet, et que ça n'existe plus à plein d'endroits.
Voilà. Oui, tout à fait. Alors, c'est un mouvement qui fait déjà plusieurs années que le mouvement de numérisation est en marche. Il y a eu une forte accélération avec la crise Covid, où tout s'est fermé, et, tout s'est fait en ligne, même les rencontres familiales se sont faites en visioconférence, on s'en souvient. Donc nous, à Lire et Écrire, ça fait la troisième année qu'on mène une campagne qui s'appelle Les Oubliés du Numérique, où on veut attirer l'attention sur le fait que le numérique laisse quand même beaucoup de gens derrière lui, notamment les personnes en difficulté de lecture-écriture, mais pas seulement. Et cette année, donc pour la troisième fois, il y avait le thématique de cette campagne Les Oubliés du Numérique, c'était justement la fermeture des guichets. Et lorsqu'on a organisé notre mobilisation, traditionnellement c'est le 8 septembre, qui est la journée internationale pour l'alphabétisation, on a été largement rejoint par toute une série d'associations, en dehors même du cadre de l'alphabétisation, parce que c'était une préoccupation partagée par les services sociaux, par les écoles de devoirs, par les maisons de jeunes. Énormément d'acteurs sociaux qui finalement, alors que c'est pas du tout leur mission première, se trouvent à accompagner les personnes dans toutes les démarches à faire en ligne. Alors on a vu cette large mobilisation lors de notre action du 8 septembre. Conjointement, il y a un projet d'ordonnance en préparation donc au Parlement bruxellois qui vise à instaurer vraiment une communication numérique entre l'administration et tous les citoyens. Et donc ça a suscité aussi beaucoup de crispation dans le secteur social, parce qu'on voyait déjà la situation assez intenable pour les personnes qui s'adressent à nous. Et là, c'est vraiment une ordonnance qui vise à institutionnaliser ce mode de fonctionnement. Et donc la mobilisation s'est étendue, on a publié une carte blanche dans la Libre Belgique où on a eu plus de 200 associations signataires. Et la mobilisation continue parce que le projet, l'ordonnance suit son cours au Parlement et donc on continue à se mobiliser pour absolument demander une garantie d'ouverture des guichets physiques et de services téléphoniques de qualité pour tous les citoyens.
Et que ces ouvertures-là soient pas juste une demi-heure dans la semaine, quoi.
Ouais, voilà. Alors les guichets à la base, nous on s'est longtemps battu contre, contre les guichets pour réformer les guichets parce que ce sont aussi des lieux parfois de violence symbolique parfois importants. Donc ce sont des guichets qui sont accueillants pour tout le monde, mais aussi des guichets qui soient réellement accessibles. Donc effectivement pas une demi-heure. En fin de journée, mais avec des larges plages horaires et accessibles physiquement aussi pour tout le monde.
Et c'est par rapport à cette ordonnance, par qui elle est lancée et c'est quoi l'intérêt en fait de vouloir tout numériser comme ça?
Alors c'est une ordonnance qui vient du ministre Claire Failly, qui est ministre de la transition numérique, mais qui prend place dans un cadre plus large et notamment européen, où on vise vraiment à numériser, à digitaliser une grande partie, voire l'intégralité des services publics. Donc il y a un cadre européen, mais la région bruxelloise, ici la première région du pays à vraiment prendre ce type d'ordonnance qui ne vise pas à fermer les guichets, mais à ce que toutes les démarches de l'administration soient accessibles en ligne, mais sans obliger les administrations à prévoir de véritables alternatives. Donc, nous à la base, ce qu'on aimerait bien, c'est plutôt un projet ou une loi qui réfléchisse à l'accès aux droits pour tout le monde, dans laquelle le numérique est une stratégie qui a toute sa place, certainement, mais pas uniquement une ordonnance Bruxelles numérique. On veut une réflexion beaucoup plus large sur l'accès aux droits et pas simplement la digitalisation des services publics.
C'est super déshumanisant, déjà, d'une part. Et on n'a pas toujours réponse en fait dans les administrations via cette voie numérique et on a parfois la sensation d'envoyer des bouteilles à la mer.
Ouais, alors déjà c'est vrai que ça marche pas toujours, hein. Même quand on a les compétences, le matériel, qu'on est au top, ben parfois le système bug, parfois le système est mal conçu, parfois on a des situations qui rentrent pas tout à fait dans les cases et ben c'est difficile d'avoir quelqu'un qui nous explique pourquoi ça bloque ou qu'est-ce qui se passe. Donc ça c'est déjà très très frustrant, mais ça je pense que c'est pour tout le monde. Et en plus, oui, c'est tout à fait déshumanisant. Donc, qui en fait préfère ne s'adresser qu'à des écrans, à des robots, plutôt qu'à des personnes? Alors, ça offre un certain confort de pouvoir faire des démarches depuis son salon, ça c'est sûr. Mais de manière générale, quelle société on veut? Est-ce qu'on veut vraiment une société où on a que des bots et des chats GPT qui vont nous répondre et plus d'humains? Donc ça, c'est une vraie question. Et puis, c'est aussi une déshumanisation de la relation aux institutions. Et donc, nous, on travaille énormément avec des personnes qui sont déjà marginalisées, qui sont déjà exclues d'une partie de la société.
Et qui subissent déjà, en fait, des violences institutionnelles.
Et oui, il y a déjà une violence institutionnelle assez importante. Et ben maintenant, il n'y a même plus d'interlocuteurs. On peut même plus se représenter et rentrer en dialogue avec l'État. Cette communication, elle est plus possible ou très difficile. Donc oui, ça a un impact important. Et on voit même les gens qui s'adressent chez nous, ils savent pas toujours dire quel service, de quelle administration ça vient. Ils vont dire ouais, mais c'est boulevard Lambermont, ça vient de là. Alors ouais, on réfléchit, on trouve de quelle administration il s'agit. Mais maintenant, c'est même plus possible. C'était sur Internet.
Parfois, on a même des personnes en fait en face de nous, mais qui nous renvoient à des machines. Et c'est assez fort. On avait fait ici à Panique, par exemple, une émission sur la fracture numérique. Enfin, il y en a eu plusieurs. Une dame donc qui était en alphabétisation et racontait. Qu'elle avait du mal avec la lecture et qu'elle va donc elle est à la STIB et demande au guichet si elle peut avoir un ticket. Et on lui dit non madame, vous devez aller à la machine en fait. Donc ça devient très compliqué alors qu'à la machine elle pouvait pas avoir ce ticket. Et donc on n'est pas seulement sur le numérique ordinateur mais aussi physique dans les gares c'est...
Oui, je pense même que pour les personnes qui travaillent dans ces guichets et où ils ont des directives très claires, qui ne peuvent plus réaliser certaines démarches, ils doivent renvoyer l'usager vers les machines.
C'est ça.
Je pense que ça doit être assez frustrant comme métier aussi, parce que on peut rendre le service, on est capable de le faire, on voit que la personne en a besoin, mais il y a des directives qui leur disent non, ça vous pouvez pas faire, la personne doit se débrouiller. Donc je pense aussi qu'il y a, une perte de sens parfois chez les travailleurs des institutions, alors les institutions mais aussi les services d'intérêt général, hein, de manière plus globale, parce que ils ne savent plus rendre le service aux usagers. Or c'est un peu leur métier quand même à la base.
Et comment est-ce qu'on peut parler de l'accès en fait à Internet? Parce que donc tout voudrait passer par là, mais plein de gens n'ont pas d'ordinateur, n'ont pas de connexion Internet. On pousse au tout smartphone aussi. On n'a pas de smartphone.
Ouais, alors bon, la question de l'accès, elle évolue quand même. Il y a de plus en plus de personnes qui ont un accès à Internet, et principalement via le smartphone. Maintenant, de plus en plus de personnes, ça ne veut pas dire tout le monde,
et ça
veut
dire, c'est ça.
Voilà, qu'il y en a encore qui n'en ont pas, et pour eux, ça devient de plus en plus galère parce que on oublie qu'il y a encore des personnes qui n'ont pas du tout accès à Internet. Et puis si l'accès se répand, c'est principalement via smartphone. Or, il y a toute une série de démarches qui sont quand même extrêmement compliquées à faire sur un petit écran avec un clavier qui prend la moitié de la place. Donc en plus, on ne sait pas vraiment tout faire non plus facilement avec un smartphone. Donc la question de l'accès, elle reste quand même importante. Alors une des solutions que nous on encourage et qu'encourage aussi Monsieur Claire Failly, c'est de renvoyer, d'orienter les personnes vers les espaces publics numériques. Donc ça c'est un petit peu comme des bibliothèques, hein, avec des ordinateurs. Donc on peut accéder à un ordinateur et il y a quelqu'un qui est là pour nous aider à prendre en main éventuellement. Mais ces espaces publics sont complètement espaces publics numériques sont complètement sous-financés. Et donc on le présente toujours comme la solution, l'alternative, mais ce sont les travailleurs souvent précaires avec des contrats d'insertion. Il y a pas énormément de financement pour le matériel et certainement pas pour les ressources humaines. Donc c'est très très compliqué de présenter ça comme l'alternative, la solution pour la connexion, quoi.
Aussi, quand on va dans un espace public numérique, on dit bien espace public, si on va faire des démarches personnelles, enfin, ce sont des démarches personnelles, justement, on est aussi dans le cadre d'un certain intime, de données, et donc c'est pas évident non plus pour les personnes qui vont faire leurs démarches là-bas.
Ouais, c'est compliqué parce que donc effectivement, ce sont les espaces publics, donc on n'est pas très loin du voisin. Donc si on se connecte à son compte en banque, on se sent pas toujours dans un cadre où on respecte sa vie privée, son intimité. Même si en termes de sécurité, etc., normalement les ordinateurs sont, y a pas de souci à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'on est dans un espace public, et si après on est aussi amené à téléphoner, etc., on communique des choses parfois intimes, et ça, c'est les difficultés auxquelles on est de plus en plus confronté dans le monde associatif, justement. Donc nous, on a des formateurs qui donnent des formations d'alphabétisation, mais de plus en plus, les personnes qui viennent en formation leur demandent de l'aide, leur demandent de les aider. Et bon, c'était déjà le cas avant, hein. On a toujours aidé, les gens viennent avec leur courrier, etc. Mais maintenant, on doit vraiment rentrer plus en avant dans les démarches, puisqu'elles doivent les faire elles-mêmes. Alors qu'avant, c'était comprendre à quel guichet ou qu'est-ce qu'on leur a dit. Ici, maintenant, il faut vraiment faire les démarches à la place ou avec les personnes, si possible. Et donc, on rentre vraiment dans l'intimité. Alors, on parle de déclaration d'impôt, d'accès au dossier santé. Donc, on manipule des données qui sont quand même assez intimes et privées, sans aucun cadre légal pour nous protéger, sans vraiment de formation. Donc c'est assez délicat. Et puis, ça déborde complètement de nos missions premières, quoi.
Donc, quelles sont les pistes de solutions qu'il pourrait y avoir au niveau du travail social et au niveau simplement des personnes du coup, qui se retrouvent dans cette fracture?
Bon, en tout cas, la piste numéro un pour laquelle nous, on se mobilise vraiment, c'est l'ouverture de guichets. C'est des guichets accessibles pour tout le monde, comme j'ai dit, en nombre suffisant, avec un bon accueil, etc. Ça, c'est vraiment la piste numéro un. Mais pas seulement, parce que les guichets, c'est vrai que pour certaines personnes, c'est pas l'idéal non plus. On pense à des personnes qui ont du mal à se déplacer, par exemple. Donc, il faut aussi des services téléphoniques. Mais des vrais services téléphoniques, pas avec des répondeurs où on se perd dans les labyrinthes des menus et avec quelqu'un où on arrive à avoir quelqu'un au bout du fil. Donc ça, c'est vraiment la piste numéro un. La numérisation a sa place dans l'accès, donc on n'est pas du tout contre-opposé à la numérisation, mais c'est une numérisation qui doit se faire en pensant, en étant inclusif dès le départ. Trop souvent, on numérise un service et puis on se demande, tiens, comment est-ce qu'on va le rendre accessible maintenant à tout le monde? Non, il faut penser dès le départ comment est-ce que les personnes les plus éloignées vont pouvoir accéder à ce service-là. Et après, on va pouvoir le rendre accessible à tout le monde, puisque ce qui va bénéficier aux plus éloignés bénéficiera naturellement aux autres également. La formation, ça reste important. Ça reste un axe important, c'est renforcer les compétences des personnes, mais cette formation ne doit pas conditionner l'accès aux droits. Donc c'est ça qui est important. La formation peut pas être une obligation et l'accès à ces droits ne peut pas dépendre d'une formation. Donc ça, c'est vraiment une mission des services publics, c'est qu'ils doivent être accessibles à tout le monde, formés ou pas formés. Donc voilà, mais des stratégies de formation en finançant des formations et les EPN aussi en finançant le réseau des EPN comme il en a besoin, quoi. C'est-à-dire avec des emplois stables. Pas sur des appels à projets de 6 mois, pas sur des contrats d'un an, mais avec des travailleurs qui sont stables, qui peuvent avoir le temps de se former, de comprendre leur métier, mais aussi les différentes administrations. Parce que quand on doit aider ou accompagner les personnes, il faut comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc tout ça, ça prend du temps. Et c'est compliqué sur des périodes de 6 mois, d'un an, de se former. Et puis il faut repartir, donc c'est repartir à zéro, c'est compliqué.
Au niveau de la campagne, elle a un nom, hein, cette campagne, et je m'en rappelle plus.
Non, mais donc nous, c'est notre campagne, c'est les oubliés du numérique.
C'est ça.
Voilà. Hein, les oubliés du numérique, et donc là, c'est la troisième année qu'on l'amène, et cette année, je pense que c'est le numérique, nouveau clic ou vrai claque.
Okay.
Quelque chose comme ça, mais j'en suis plus
ça,
sûr.
Ça, j'ai pas vu. Je sais pas du tout. Parce que par rapport à cette campagne, donc troisième année, 200 associations qui suivent, quelle portée là vous arrivez à avoir au niveau donc des politiques?
Oui. Alors donc c'est une mobilisation qui est large. Puisque c'est vraiment, on déborde vraiment du secteur de l'alpha, mais c'est tout le secteur social qui est là. On est écouté par le politique, par les parlementaires et les membres du gouvernement. On a été reçu par le gouvernement bruxellois.
En décembre, là, c'est ça?
C'était début janvier, finalement.
Ah, okay.
On est écouté, par contre, on n'est pas encore entendu. C'est-à-dire que là, le projet d'ordonnance qui est passé en première lecture, il est juste inacceptable pour nous, puisque on ne parle pas du tout d'alternative ou en des termes très très vagues, sans aucune obligation ni surtout mesure de contrôle et d'obligation vraiment par rapport à ça. C'est vraiment du tout numérique. Pour schématiser un petit peu. Donc voilà, on n'est pas encore vraiment entendu. C'est pour ça que notre mobilisation, elle continue. On a été mener une action symbolique vendredi au printemps du numérique pour rappeler que le printemps du numérique, c'est bien, mais il faut penser pour tout le monde. Et puis, on a une prochaine mobilisation qui s'organise à Anderlecht, mi-avril. Et puis il y en aura à Molenbeek, à XL aussi, dans les communes en fait. On va essayer d'attaquer un peu sur le terrain communal, puisque l'administration communale, c'est la première en contact avec le citoyen, quoi.
Et donc en termes d'action et de mobilisation, à quoi ça ressemble?
Alors je ne sais pas encore exactement quelle forme ça va prendre mi-avril à Anderlecht, mais l'idée c'est vraiment de se mobiliser devant la maison communale. Ce sera un rassemblement. Alors il y aura sans doute on fait des files symboliques, hein, on fait des guichets et puis on fait la file et on veut montrer le nombre de gens qui ont besoin d'accéder au guichet. Voilà, on a des slogans aussi. On veut du respect, on veut des guichets, des choses comme ça.
On va faire une petite pause musicale et puis on revient tout de suite après. Mmh.
great, you were good, you're a king, you're a queen, you're a genius. You were great, you were good, you're a king, you're a queen, you're a genius. You were great, you were good, you're a king, you're a queen, you're a genius. 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 I've been lacking motivation. I need an intervention. I've been lacking motivation. I need an intervention. I've been lacking motivation. I need an intervention. I've been lacking motivation. Lacking motivation. The other day I had a conversation with my therapist. I was telling him about situations I always end up in, how I act impulsively, how things seem to happen to me. I was saying, poor me, sorry sir. He said, Tyron, you just gotta learn to breathe. Imagine you're on a staircase and each step you take is a step down from being up that level. He said, breathe. Things that just piss me off more. What am I paying for? Yeah. Work so hard, I deserve to not give a fuck. Feel so good, getting hit while I see you fuck. I'm a nut, anybody wanna get a nut? You a slut, me too, what you wanna fuck? I go deep like I'm digging in a coal mine. She came first and then she said it's your time. Funny cuts, I couldn't come. Dick in her mouth, she said yum. Not the same when she's snorting powder. She said, baby, I wanna go in the shower. How can I refuse? Got a couple loose screws. I won't stop till I'm in a coma. I took a blue pill and I lost composure. Fuck it. You don't say nobody's watching. More coke, more weed, more ease, more drip, more eat. More sex, less stress, head jet. Where you wanna be my empress? More bass, more raves, more shades. What? You tryna save face? More alcohol, we ain't going home till we broke and we catch us a. Never enough. One drink's never enough. One drink's never enough. Yeah! Excuse me why I self-destruct. Cause I don't give a fuck. Excuse me why I self-destruct. Cause I don't give a fuck. Everyone from the front to the back, repeat after me. I need you to breathe.
On écoutait Slotai avec le titre Yum, qui n'a rien à voir avec la fracture numérique. Mais alors Fabien, on disait que des mobilisations allaient avoir lieu. Est-ce que tu peux nous donner quelques dates et nous dire aussi comment nos auditrices pourraient rejoindre les actions et les mobilisations?
Oui, donc la prochaine mobilisation bien fixé, c'est le 18 avril à 10h.
Ah, pardon. Alors, j'ai juste pas mis ton micro, donc ça allait être compliqué.
Okay.
Voilà, là c'est mieux.
Donc on a une date prochainement qui est arrêtée, c'est le 18 avril à 10h, et ça se passe devant la maison communale d'Anderlecht. Donc c'est place du conseil à Anderlecht, donc à 10h. Et si vous voulez avoir plus d'infos, être tenu informé un petit peu de nos mouvements, le mieux c'est de nous passer un petit coup de fil au 02 412 56 10
avec un humain qui répond.
Voilà, avec un humain qui répond. Et après, ben on vous inscrira sur notre mailing list et on vous tiendra informé, que vous soyez membre d'une organisation, d'une institution ou à titre individuel, c'est toujours bien de nous rejoindre dans tous les cas.
Ben, merci beaucoup Fabien d'être venu jusqu'ici pour nous parler de cette campagne. Et nous on va écouter Water from Your Eyes. Ben voilà, on va faire ça. C'est une bonne idée.